France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, tapis, le sale gosse. Épisode 3, un symptôme de quoi ? Chez mes parents, dans les années 1980, on n'avait pas vraiment la télévision. On avait bien quelque chose qui y ressemblait vaguement. Un poste de marque Desjardins en noir et blanc qui ne marchait pas très bien, à vrai dire. Les boutons pour changer les chaînes étaient même cassés. Et si on voulait passer de la 1 à la 2 ou à la 3, il fallait à chaque fois rechercher la fréquence manuellement, comme sur un vieux tuner de radio à aiguille. Je mentionne seulement les trois premières chaînes parce qu'on n'avait jamais réussi à capter les chaînes 4, 5 et 6. Et c'était un peu dommage car elles avaient l'air super. Enfin, c'était ce qui se disait dans la cour de récréation. C'est donc sur ce téléviseur à écran à coin pas du tout carré mais bien rond que je suis tombé, c'était un vendredi je crois, sur cette émission.
Je vous présente Ambition de Grenoble.
Ambition, c'était une émission présentée par Bernard Tapie dans les années 86-87 qui visait à aider des entrepreneurs de moins de 25 ans à concrétiser leurs projets en les présentant à un jury de professionnels. Le sous-texte du programme aurait pu se résumer à cet adage « Quand on veut, on peut ».
Vous avez été, la ville de Grenoble, formidable. On comprend d'ailleurs pourquoi cette ville a les performances qu'elle a. Et on va remercier en particulier son maire, monsieur Alain Carignon.
Ce soir-là, en direct de Grenoble, Bernard Tapie accueillait sur scène le maire de la ville, Alain Carignon, un futur repris de justice condamné deux fois pour abus de biens sociaux. À eux deux d'ailleurs, sur la scène du Zénith, ils cumuleraient, dans un avenir proche, une peine totale de 5 années de prison. Au passage, notons que cette émission n'était pas sans préfigurer celle que Donald Trump allait mettre à l'antenne 20 ans plus tard sous le titre « The Apprentice ». Dans les deux cas, il s'agissait de faire la promotion des mêmes valeurs, celle précisément de l'ambition. À la différence près que Tapie revendiquait d'aider les jeunes entrepreneurs, alors que Donald Trump avait plutôt tendance à les humilier.
You're fired. You're fired.
En février 1987, après 5 numéros de ce show gigantesque, la gendarme des médias de l'époque, Michel Cotta, avait demandé l'arrêt de l'émission.
You're fired.
Pour elle, Ambition servait davantage des intérêts de Bernard Tapie lui-même que ceux du service public. De toute façon, Tapie était déjà un peu dans autre chose puisqu'il aidait le groupe Bouygues à prendre le contrôle de TF1. Et c'est donc comme ça qu'Ambition s'était arrêtée. Au moins, on peut dire que Tapie était cohérent avec le concept de son émission. Il mettait de côté tout ce qui pouvait freiner ses propres ambitions. Le show était tout à fait dans l'esthétique des années 80. Décors marbrés, couleurs flashy, sentiment de modernité high-tech. Mais celui qui incarnait le plus cette esthétique 1980, c'était Bernard Tapie lui-même, avec sa gestuelle de gagneur et sa façon d'occuper l'espace, qui n'aurait pas dépareillé dans le film Wall Street d'Oliver Stone. Mais au-delà de l'apparence, en quoi cet homme a-t-il été un symptôme du grand changement qu'a engendré cette décennie ? C'est ce que nous allons voir maintenant.
Bernard Tapie, le sale gosse. Une série en 6 épisodes de Mathieu Garrigou-Lagrange. Réalisation Delphine Lemaire, attachée de production Lily Cornaer.
François Cusset, vous êtes historien des idées. Votre dernier livre concerne Elon Musk et il a paru aux éditions des Busclats. Mais avant cela, vous aviez publié l'ouvrage La décennie, sous-titré Le grand cauchemar des années 80. Qu'est-ce qui fait que, pour vous, Bernard Tapie pourrait être un modèle de ces années 80?
C'est la tête de gondole des années 80, vous voyez, un peu comme les livres best-sellers qu'on met au bout des rayons. Effectivement, symptôme, c'est le bon terme, parce que c'est compulsif, c'est névrotique. Enfin, c'est vraiment une décennie qui met en avant la nécessité de la réussite individuelle, d'oublier l'utopie politique et de s'en sortir tout seul. Et à ce titre, notamment en tant que futur ministre récupéré par la gauche, mais bien sûr en tant qu'entrepreneur, homme de télé, voilà, multitalent, il incarne ses anti-valeurs, ses non-valeurs, enfin cette incitation à oublier les grandes valeurs et à les remplacer justement par des ambitions personnelles. Quoi.
Même s'il commence dans les années 70, mais on a le sentiment que ces années 80 lui correspondent en tout point, et d'ailleurs il reste un petit peu dans notre mémoire comme l'entrepreneur de ces années-là.
Oui, c'est-à-dire qu'il est à la fois effectivement l'incarnation de l'esprit d'entreprise mis en valeur par la gauche et la droite des années 80, mais aussi l'incarnation de tous les mensonges de ces valeurs de l'entreprise, puisque voilà, l'entreprise devrait favoriser la créativité de chacun. Or, Tapie, businessman effectivement assez génial, n'a cessé de racheter des entreprises, il n'en a jamais créé une. Il incarne effectivement le type cool et sympa, d'où son succès médiatique l'adulation dont il a fait l'objet, alors que c'est évidemment un patron, donc c'est assez vertical. On verra que l'autoritarisme fait aussi partie de ses valeurs. Donc voilà, et il incarne aussi évidemment l'arnaque de la réussite pour tous, puisque par définition, la réussite entrepreneuriale, c'est pour les happy few, de préférence quand les parents peuvent vous fournir l'argent du capital de départ. Donc cette idée que c'est pour tout le monde, et voilà, il incarne ce mensonge-là.
Et vous parlez d'une décennie du renoncement. À quoi est-ce qu'on aurait tendanciellement renoncé dans ces années-là, les années 80?
Bon, évidemment, il faut se méfier des séparations en décennies, mais à l'échelle historique très très globale, on a une longue séquence, à l'échelle de l'histoire moderne, une séquence positive, émancipatrice, plutôt de gauche, qui est celle qui va de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 70.
Donc l'État-providence, par exemple.
État-providence, capitalisme qu'on dit mixte, c'est-à-dire en tout cas dont les excès sont compensés par des programmes sociaux. Révolte de la jeunesse, révolution sexuelle, décolonisation de la moitié de la planète, quand même. Enfin, on a l'ensemble de ces phénomènes-là. Et puis, tout arrive, effectivement, dans une impasse à la fin des années 70, lorsque, justement, les entreprises se rendent compte qu'il y a beaucoup trop de jours de grève, il y a beaucoup trop de mouvements de protestation, qu'il y a une sorte d'inefficacité qui fait que le taux de profit tendanciellement baisse, sans compter que ces gouvernements de gauche ne sont plus fiables, et donc on préfère un retour aux valeurs conservatrices. Alors, il faut préciser immédiatement que ce grand tournant réactionnaire et entrepreneurial des années 80 prend en France une toute autre forme qu'ailleurs, puisque c'est l'arrivée au pouvoir de gens de droite dans presque tous les pays du monde, enfin, sauf dans l'ex-bloc soviétique, Margaret Thatcher en Angleterre, Ronald Reagan aux États-Unis. Et ben en France, le même mouvement prend la forme inverse des années Mitterrand et donc de l'élection du premier président de gauche en 1981, dont on sait qu'il va ensuite plus que mettre de l'eau dans son vin, faire le tournant de la rigueur et assumer une gestion austéritaire.
Nous venons d'apprendre à l'instant que le bateau mouche, la grosse Madeleine, vient d'être détourné par un ou plusieurs pirates. Nous vous tiendrons au courant de cette affaire.
Le téléviseur blanc en bakélite de mes parents paraissait bien inoffensif. Il avait même un nom, donné par le constructeur, et s'appelait le Space Age parce qu'il ressemblait à une télé de navette spatiale. Il était posé sur un pied tulipe, et finalement il était très beau à regarder, même éteint d'ailleurs, avec son design tout pompidolien. Son élancement naturel, sa jolie bouille presque ronde, semblait diffuser à regret les vulgarités de Stéphane Collaro. Il refusait en revanche totalement les couleurs criardes des plateaux de Patrick Sabatier, car c'était, je l'ai dit, une télé en noir et blanc. Mais malgré son évidente beauté plastique, mes parents avaient pris soin de la reléguer dans une pièce où on la verrait le moins possible, comme quelque chose d'un peu honteux. Je ne crois pas en effet qu'ils étaient tellement séduits par ce que représentait cette télé des années 80 et qu'ils ressentaient en revanche très bien ce qu'elle était en train de devenir. Pour les besoins de cette émission, j'ai consulté le livre intitulé « Télé Génération 80 » de Gilles Bergeoin et Pascal Baril. On y voit une photo de l'animateur star de l'époque, Patrick Sabatier, qui pose avec une coupe de champagne devant une voiture de collection noire et brillante. Quelques pages plus loin, un autre animateur, Patrice Laffont, est accoudé à une Porsche. Et quelques pages plus loin encore, un autre animateur encore, Philippe Bouvard, s'est laissé photographier devant le capot d'une Ferrari. Même si on trouve aussi dans ce même livre une image de Maïté qui pose avec une cuillère, ainsi que le journaliste littéraire Bernard Rapp, photographié avec un stylo, on se rend compte que ces années 80 avaient quelque chose à voir avec les voitures de luxe. Tapie, justement, a incarné parfaitement tout cela, toute cette télé, tout ce luxe des années 80. Davantage, il était l'un des meilleurs représentants de la société du spectacle dans son ensemble. La société du spectacle, c'est ce concept inventé par Guy Debord dans son livre éponyme de 1967.
Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation.
Dans ce livre, Debord affirme que dans la société de consommation qui est la nôtre, les relations sociales sont dominées par des images et des représentations. Chacun se donne en spectacle à l'autre et espère jouer le meilleur rôle possible, présenter son meilleur visage et, au final, être admiré. Plutôt que de vivre nos vies, disait Guy Debord, nous préférons plus que jamais exister dans le regard des autres. L'image de nous-mêmes est plus importante que nos vies elles-mêmes. À vrai dire, nous confondons notre image avec l'image de notre vie. Je crois que l'existence des réseaux sociaux aujourd'hui démontre que Guy Debord avait vu juste. Les réseaux sociaux sont des vitrines de nous-mêmes, nous y mettons notre vie en spectacle. Les réseaux sociaux, c'est la société de consommation dont nous sommes nous-mêmes le produit. On se markete, on se vend et on s'achète tous les uns les autres. À mon avis, Tapie peut être considérée comme une incarnation de cette société du spectacle au moment où elle se développe dans les années 80 à une vitesse de plus en plus rapide. Il a fait de sa vie une performance permanente où la frontière entre le show et la réalité est totalement brouillée. D'ailleurs, Tapie fait toujours le show, il a toujours une bonne histoire à raconter.
Alors, cette histoire de chanson, on dit Tapie, que ça soit les affaires, que ce soit la chanson, l'important, c'est qu'il soit connu. Mais alors, vous avez commencé comment dans le domaine de la chanson? C'était par un crochet radiophonique?
En chantant.
C'est non, mais d'accord, en chantant, mais un crochet radiophonique.
Ouais.
Et vous aviez chanté quoi?
Parce que c'est vrai que les premières années, pour me payer mes études, je faisais le charbonnier. Et puis, j'ai trouvé que c'était plus rigolo et moins fatigant de passer en faisant le clown dans les différents casinos d'été. Et puis, j'ai fait un disque. J'en ai vendu, sans compter ma mère, 37. J'ai ma mère, parce qu'à l'époque, elle en a acheté 100 d'un coup. Elle. Ah, oui. Alors, ça faisait 137.
Ça faisait 137. Mais sans... Déjà, dans la famille, vous rachetiez fort.
Vous n'étiez pas repreneur, là.
Non.
Et maintenant, est-ce que vous les avez rachetés, vos disques de l'époque?
Non. Mais c'était tellement mauvais que...
Non, vous n'êtes pas content de vous?
Et quel casino vous avez fait?
La Pastourelle, ça s'appelait. C'était à Saint-Jean-de-Mont.
Ah oui, d'accord.
Sables d'Olonne, à côté des Sables d'Olonne. Puis après, je suis rentré chez... Après, j'ai vendu deux voitures. Ici, on m'a dit, il faut toujours dire que la vérité.
Oui, évidemment.
Alors, je vais vous dire des trucs, mais je ne l'avais jamais dit avant. Hein. J'ai donc vendu des voitures, ça a bien marché pendant j'étais le meilleur, quoi.
Hein. C'était des voitures d'occasion?
Ouais, non, c'était des voitures neuves, c'était le premier constructeur français. Et puis, comme j'avais de bons scores, un jour, il y a le chef des ventes qui m'a demandé de venir pour recevoir la médaille du meilleur vendeur. Alors... Bon, il m'a reçu comme ça, puis j'ai dit que j'étais fier d'être chez Renault, parce que c'était la meilleure bagnole actuellement sur le marché, et que j'avais pas de mérite à vendre des Renault, dans la mesure où c'était facile. Alors, mon chef des ventes m'a appelé en me disant, vous avez fait une connerie, vous avez dit deux fois Renault. Et moi, je me rendais pas compte, je sais pas pourquoi, j'avais un problème, peut-être la timidité. Alors il m'a un peu remis en place et puis bon j'ai pu monter, je suis devenu chef des ventes, puis directeur commercial et puis un coup j'ai accueilli le président moi-même avec le président de Renault au salon de l'auto et puis là le gars m'a félicité, c'était à l'époque Pompidou. Il m'a dit alors vous êtes fier? J'ai dit oui monsieur parce que je pense que Renault est la meilleure compagnie française. C'est une histoire vraie hein.
François Cusset, que vous inspire cette archive de 1986?
Effectivement, pour paraphraser Guy Debord, il disait aussi « Le vrai est un moment du faux dans le système spectaculaire ». Donc j'aime beaucoup, évidemment, la stratégie de Tapie a toujours été, comme d'ailleurs celle des populistes plus récents, hein, que voilà, Trump et autres, d'affirmer leur sincérité absolue et que justement, eux seraient plus directs et sincères que le système qui, lui, serait trouillard et mensonger. Mais on voit bien que cette sincérité est tellement mise en scène. Ces anecdotes ont une place très précise, idéologique. Elles sont là pour convaincre que le type est sympa, que créer une entreprise ou commencer comme il a commencé, il n'y a rien de mieux. Enfin, le message derrière est quand même assez politique. Mais tout ça, voilà, a l'air direct et sympa. Ce que j'aime bien aussi, c'est sa roublardise, c'est-à-dire que c'est vraiment le contraire du gars stressé en direct dans les médias. Il s'en fiche et quelque part, il y a le potentiel de maîtrise totale de l'outil médiatique à son profit. Quelqu'un qui est à ce point tranquille va en faire quelque chose d'énorme pour lui et pour sa réussite des médias.
Il n'y a pas de différence entre Tapie à la ville et Tapie devant un micro ou devant une caméra, c'est exactement le même.
Bah, ça, il faut l'avoir connu à la ville pour faire la comparaison. Et il va de soi que moi, vraiment, hein, je pense que l'assurance de sa sincérité est toujours une hypocrisie. Mais oui, le type est, enfin, si on fait un petit peu de sociologie vraiment de bas étage, il va de soi que vu son trajet, sa formation, son éducation, il y a une continuité, on va dire, émotionnelle et personnelle très directe entre le Tapie public et le Tapie privé. Oui, on pense que oui.
Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu cette émission Ambition? Bon, c'était il y a très longtemps et vous étiez petit, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez en mémoire?
Alors, à vrai dire, moi, je ne l'avais pas vu et j'ai fait mon travail d'archive pour écrire mon bouquin sur les années 80. Donc là, je l'ai regardé et j'ai découvert une émission qu'il avait faite avant. Je crois que c'est la toute première qu'il ait faite, qui est intéressante aussi, qui s'intitulait, elle a moins duré, mais elle s'intitulait « Les bons, la crise et les perdants ». Donc un peu sur le thème, voilà, les bons, la brute et le truand. Et là, on a aussi toute l'idéologie des années 80 parce que au milieu, qu'est-ce qui différencie les bons et les perdants? La crise. Hein, il y a cette émission sans doute la plus célèbre des années 80, la plus tristement célèbre, Vive la crise, hein, inventée par des médias de gauche, Libération, etc., dont l'idée est, c'est la merde, hein, excuse my French, mais voilà, taux de chômage très élevé, difficultés structurelles du pays et du monde, c'est le moment de faire la différence, justement, et de montrer qu'on peut s'en sortir. La réaction à la crise doit être l'initiative individuelle et surtout pas l'entraide collective. Il incarne ça, le titre de sa première émission dit exactement ça, c'est un produit de la crise, Bernard Tapie.
Bernard Tapie, 39 ans, propriétaire d'un groupe de 42 entreprises et 8000 salariés. Chiffre d'affaires annuel, 5 milliards de francs lourds. Son ambition, devenir dans quelques années l'un des tout premiers patrons de France.
Mais moi j'assume, je suis un vrai capitaliste, qui vit comme un capitaliste. Moi j'ai le droit au profit, je me le donne ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné.
La société du spectacle, dont Tapie est quand même l'un des représentants, qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça crée? Quel est son danger? Parce qu'au fond, on pourrait se dire, après tout, pourquoi pas une société du divertissement?
Effectivement, ça a toujours existé, c'est bien l'idée. Voilà, il n'y a pas vraiment d'historicisme chez Debord, mais quand il fait la société du spectacle, c'est pour dire que voilà, le capitalisme contemporain n'a rien inventé. Il y a toujours eu besoin de cette illusion, de ce simulacre pour que le pouvoir fonctionne. Mais la société du spectacle, le spectaculaire intégré, comme il l'appelle, d'aujourd'hui, de son époque et de celle de Tapie, hein, qui était il y a 40-50 ans, associe de différents qu'il n'y a plus de dehors. Il n'y a que du spectacle, il n'y a plus de salle ou de hors-salle d'où on pourrait faire une différence entre le vrai et le faux, le spectacle et la réalité, etc. On n'est plus à l'époque d'Aristote, on allait au théâtre pour se sentir mieux. Le show est intégral, et donc à l'intérieur du show, c'est-à-dire qu'en fait la réussite de quelqu'un comme Bernard Tapie, les politiques sociales qu'on va mener, dévastant l'industrie française au même moment, toutes ces choses-là font partie d'un ensemble nouveau qui est le grand show politico-médiatique français. Et mondial.
Les interventions spectaculaires de Tapie à la radio et à la télévision sont innombrables. Il y a d'abord eu, je l'ai dit, son premier passage en tant que chanteur.
Je ne crois plus les filles avec leurs beaux serments. Je ne crois plus les filles, ce n'est plus comme avant.
Puis il y a eu le moment gym tonique avec Véronique et Davina. À chaque fois, il dépasse les limites de l'inattendu, pousse le curseur un peu plus loin, mais ne franchit jamais la ligne rouge qui le rendrait trop choquant à l'égard des Français et risquerait de lui faire perdre sa popularité.
Allez, tout le monde nous suit. En petite foulée avec Bernard Tapie.
Bernard Tapie, aujourd'hui, vous êtes crédible parce qu'il y a quelques années, on se demandait où va-t-il, que fait-il, qui est-il. Aujourd'hui, on sait que vous êtes l'homme des liquidations en tout genre, vous êtes l'homme qui peut sauver d'une faillite, vous êtes le sauveteur ou le sauveur de sociétés moribondes, et on serait tenté de croire que lorsqu'une affaire va mal, vous lancez votre grand cri de guerre « Attendez, j'arrive !»
C'est en fait, on trouve l'aboutissement de ce résultat dans deux principes. Le premier, c'est que le fait est qu'on a une crise aujourd'hui qui sévit, qui est très grave et qui remet en cause un peu le profil du chef d'entreprise il y a quelques années. On avait un taux de croissance de 20%, c'est pratique, et ça demande un certain nombre de qualités de gérer une affaire malgré 20% de taux de croissance, qui sont, je dirais, la réflexion, la sérénité, le calme, la gestion, pas pépère, mais la gestion tout de même relativement sereine. Aujourd'hui, on est obligé d'être sans arrêt en situation de créativité, d'innovation, de prise de risque, qui s'accommode bien de mon profil à moi. Ce qui veut dire qu'en fait, peut-être dans 10 ans, je serai plus du tout opérationnel, et certainement il y a 10 ans, j'étais pas efficace parce que la situation correspondait mal à mon profil. Aujourd'hui, il se fait qu'il y a une bonne rencontre entre le besoin tel qu'il se fait ressentir au niveau des chefs d'entreprise et mon profil à moi.
François Cussey, qu'est-ce que vous entendez dans cette archive?
Il y a une double archive, parce que c'est bien de l'avoir entendu d'abord chez Véronique et Davina, hein, la toute première émission de gymnastique à la télé.
Il n'a pas l'air vraiment exactement content d'être là, quand même, sur l'image. Je ne sais pas si vous avez en tête, quand même, c'est un petit peu dur de danser en mini-short avec Véronique et Davina.
Oui, effectivement, et c'est, enfin, voilà, c'est gaguesque, et c'est effectivement, il ne doit pas en avoir l'habitude, mais ça nous rappelle un truc très important, c'est que dans la stratégie personnelle et médiatique de Tapie, il y a le corps. Alors, le sien n'a rien de particulier, voilà, c'est pas Schwarzenegger, mais
il est considéré comme étant beau.
Voilà, c'est un bel homme, mais c'est surtout quelqu'un qui a investi beaucoup d'argent dans le sport, évidemment, Olympique de Marseille, Tour de France, etc. Et qui, quand on regarde les marques qu'il a rachetées, ça a un rapport avec la santé ou le sport, hein, Salomon, Adidas, La Vie Claire, etc. Donc, il y a toujours cette idée que il y a un corps du gagnant. Le gagnant n'a pas seulement un esprit et un compte en banque, il a un corps qui gagne, c'est le corps qui gagne. Donc, quelque part, quand il fait ce discours du risque, hein, c'est-à-dire, c'est l'époque du risque, donc c'est mon époque, donc j'étais fait pour cette époque, c'est parce qu'il prend des risques, voilà, presque physiques. C'est ça qu'il veut mettre en avant. Et c'est ça qui est censé rendre excitant l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise, c'est le saut en parachute, en fait. C'est pas un truc pour diplômé d'HEC. C'est quelque chose de physique. C'est ça qu'il incarne aussi, à mon avis.
Alors, dans votre livre La Décennie, vous comparez Tapie à un chevalier médiéval, hardi, mobile, comme un guerrier. C'est comme ça, en effet, que vous le voyez?
Alors, c'est drôle, parce que, avec le recul, c'est-à-dire 20 ans après avoir écrit ce livre, presque, et avec l'apparition d'autres chevaliers de l'entreprise, type Elon Musk ou Jeff Bezos, je pense que la comparaison médiévale, ok, mais alors chevalier et bouffon, toujours et indissociablement. Parce que quelque part, c'est ce qui est censé les rendre sympathiques. Le populisme du chef d'entreprise, c'est qu'ils sont comme nous, donc ils ont leurs défauts, donc ils peuvent dire des conneries, que Tapie a cette espèce d'air roublard, a menti, a triché, trompé sa femme, peu importe, il est comme nous. Donc voilà, pas le chevalier du coup, au sens féodal de l'être supérieur, un chevalier qui peut être bouffon à 16 heures, quoi.
Les années 1980 me font souvent penser aux années 1920. On parle des années folles pour cette période de l'entre-deux-guerres, mais à mon avis, on pourrait aussi utiliser ce qualificatif pour les années 1980. Ces deux décennies sont en effet des moments décomplexés, où l'argent est roi, où le luxe de certains s'étale aux yeux de tous, et on note au passage que ces deux décennies se terminent par un crash boursier. Dans les deux cas aussi, le décor est important. L'art déco dans les années 20, le style acidulé des Yuppies dans les années 80. Deux esthétiques qui me semblent appartenir à une même tendance, puisqu'elles sont flatteuses pour l'œil et à destination des personnes les plus aisées. Et puis on peut trouver une ressemblance entre les personnages de romans des années 20 et ceux des années 80. D'un côté, Gatsby le Magnifique, ce héros de Fitzgerald devenu immensément riche mais qui cache un lourd secret, celui de sa naissance pauvre. De l'autre, on a les personnages de Bret Easton Ellis, riches et fêtards, et l'horrible Patrick Bateman, trader de la City le jour et assassin de SDF durant la nuit. Tapie, heureusement, ce n'est pas Patrick Bateman, mais il est un Gatsby à la française, un homme parti de rien et qui a tout conquis, celui qui, comme Gatsby, organise des fêtes que personne ne veut manquer.
Alors, êtes-vous altruiste ou êtes-vous un homme d'argent?
Je crois vraiment que l'argent est pour moi l'unité de mesure, en ce sens que chacun a besoin de se référencer, de se positionner par rapport à des scores. Alors, il y a des métiers difficiles, le vôtre par exemple, c'est pour savoir, vous avez à la limite des auditeurs ou d'un nombre d'auditeurs ou une longueur dans la carrière, mais chez nous, il y a un principe simple, c'est qu'en fin d'année, vous avez un résultat qui se traduit et qui traduit bien. Si vous êtes un homme compétent ou pas. Ça m'a aidé d'ailleurs, car je vous dis bien que S'il n'y avait pas eu ces éléments objectifs et rationnels pour savoir si mon action était positive, on la contesterait aujourd'hui encore. Si on la conteste plus, vous avez dit que j'apparaissais comme aujourd'hui crédible, simplement parce que les résultats positifs se sont accumulés et qu'il est difficile d'en mettre en cause des résultats aussi objectifs que cela. Alors l'argent, pour moi, c'est le chronomètre d'un champion. C'est ma façon de savoir et de faire savoir si, effectivement, on est compétent, capable et qu'on a des résultats positifs.
François Cusset, sur cette archive.
L'argent comme critère de la vertu, c'est intéressant. C'est-à-dire que bien sûr, c'est la décennie de l'argent roi, ou plutôt, pour la France, de la réconciliation, enfin, avec d'énormes guillemets, de la société française, très pudibonde, hein, sur l'argent et du fric, qu'on peut avoir et que, voilà, qu'avoir ramassé est plutôt signe qu'on est quelqu'un de bien et qu'on a réussi, ce que dit exactement littéralement Bernard Tapie. Mais il faut, disons qu'un tapis ne suffit pas à réconcilier la France et l'argent, et c'est évidemment l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que cette réussite-là, on va le voir aussi, va susciter énormément à la fois de rancœur chez ses rivaux, de dégoût dans la vieille élite politique et intellectuelle française, et puis de jalousie chez ceux qui n'y arrivent pas, hein, ceux qui voudraient devenir tapis mais qui ne le peuvent pas. Ce qui est intéressant, c'est le sérieux avec lequel il dit ça, c'est-à-dire que c'est vraiment une vertu cardinale, on dirait l'éthique protestante de Max Weber, c'est-à-dire c'est finalement Dieu a demandé à Bernard Tapie de mesurer sa vertu et son courage à son compte en banque, voilà, du coup c'est très grand. Ce qui m'intéresse, c'est que il y a aussi la fête, puisqu'on en parlait, c'est-à-dire qu'il y a ce sérieux de l'argent comme vertu, et il y a le mondain qui est l'aspirateur à fête et à fêtard de la décennie. Voilà, c'est ces deux aspects, hein, ce paradoxe-là qui fait les années 80, qui est une décennie où on a fait la fête beaucoup, mais où on l'a privatisée.
Alors, il n'est pas tout seul dans son genre, Tapie, dans cette décennie 80, et un autre nom vient facilement en tête, c'est celui de Jacques Séguéla. D'ailleurs, les deux se connaissent. Est-ce que, pour vous, voilà, ils sont tous les deux, au fond, des symptômes, il y en a peut-être d'autres, de ce tournant 80?
Oui, on a tellement fait un duo, que alors, pendant quelques mois, là, au milieu des années 80, on a parlé du Tapseg, Tapie Séguéla, qui était censé être une sorte de sabir, en fait, de façon un peu codée, de parler comme un publicitaire et comme un tapis à la fois. Donc oui, il n'est pas le seul symptômes, Bernard Tapie. On pourrait ajouter quelques autres noms. On pourrait ajouter quelqu'un comme Roland Moreno, qui est l'inventeur de la carte à puce, qui est une sorte de géotrouve-tout, d'inventeur génial, passé par la Silicon Valley et par les grandes universités américaines. Donc il a l'esprit comme ça, Yankee. On pourrait ajouter, alors lui, très oublié, Bernard Catla, une sorte d'ancien hippie en chemise à fleurs, qui lui a inventé les sociostyles. Il dit la lutte des classes, c'est terminé. Maintenant, la seule confrontation, c'est une rivalité sympathique entre style de vie, manière de gagner de l'argent, comme s'il n'y avait aucune manière d'en perdre. Voilà.
Donc, c'est la fin de l'histoire appliquée à la lutte des classes, d'une certaine façon.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la fin de tout. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À choisir le style avec lequel on va gagner. Mais en fait, c'est le style avec lequel on va se planter.
Est-ce que ces années 80 ont connu ensuite un reflux? Ou alors, dans ce qu'il représente et dont on vient de parler, ou alors simplement un col, et qu'aujourd'hui on est monté encore plus haut au fond dans cette société du spectacle et dans tous ces symptômes qu'on a décrits.
À certains égards, j'ai une mauvaise nouvelle, elles se sont pas terminées les années 80, donc ça fait un demi-siècle, ça commence à faire beaucoup, parce que tous les éléments les plus inattendus, les plus stupéfiants de notre moment présent, hein, que ce soit la fusion actuelle entre les milliardaires, les intérêts privés et la politique, hein, aux États-Unis et bientôt ailleurs, que ce soit le devenir intégralement spectaculaire des existences avec les réseaux sociaux, la représentation, que ce soit les mutations de l'économie mondiale, un capitalisme complètement radicalisé, sans frein, tout est non seulement en germe, mais en vérité posé par un certain nombre de mesures, de lois et de discours très explicites dans les années 80. Donc oui, on pourra dire, si on fait le détail de l'histoire, que dans les années 90, on est revenu à une certaine conscience sociale. Hein. En France, on a eu décembre 95.
Les 35 heures.
Voilà, les 35 heures. On a eu l'altermondialisme, qui évidemment, les attentats du 11 septembre et la guerre contre le terrorisme ont interrompu. Mais donc, on a eu des tentatives d'eux, mais finalement, ça fait 50 ans que les années 80 ne cessent de ne pas se terminer.
Dans ces années 80, Tapie est déjà une star des médias et du monde des affaires, mais il lui manque une corde à son arc, celle du sport. Il va la trouver avec le cyclisme et surtout avec le football, le sport, l'OM et la politique marseillaise. Voilà les sujets de notre prochain épisode.